maintenant sur les ondes de Radio Albitzès, retrouvez votre créneau conférence.
Pour cette nouvelle conférence, on vous propose une conférence enregistrée le 29 mai 2023 à Groyer lors de la foire Biocibel organisée par Nature et Progrès. André Ledu, paysan de la Confédération Paysanne, propose une conférence sur les alternatives aux pesticides, les préparations naturelles peu préoccupantes, PNPP. Le purin d'ortie est l'emblème des PNPP, mais elles peuvent être à base de plantes et de matières naturelles diverses sous différentes formes. Elles sont un outil pour une agroécologie paysanne, combattue par l'agro-industrie. Leur reconnaissance est un combat mené par Nature et Progrès, la Confédération Paysanne, l'ASPRO PNPP et bien d'autres. Quelle bataille ! Qu'est-ce qu'on autorise ou non ? Comment diffuser ces pratiques pour en finir avec les pesticides de synthèse ?
Moi, je suis pas de par ici, je suis du Finistère et j'étais paysan, je suis en retraite depuis 2 ans maintenant, donc moi j'étais producteur de lait. Ce qui fait que je n'ai pas utilisé beaucoup de PNPP, préparation naturelle plus préoccupante. Et il y a quand même une trentaine d'années, j'utilisais ce qu'on appelle des biostimulants. En fait, c'est beaucoup de PNPP. Donc, PNPP pour préparation naturelle peu préoccupante, comme l'a dit Romain, c'est assez barbare comme terme. Nous, on a plutôt tendance à dire alternative aux pesticides de synthèse. Donc, c'est le décor est planté. Maintenant, il y en a quelques-uns qui parlent de phytothérapie et d'aromathérapie au niveau des plantes. Voilà. Alors ça, pourquoi préparation naturelle peu préoccupante ? En fait, en 2006, j'en reparlerai sans doute tout à l'heure, il y a eu un décret et l'arrêté ministériel qui va avec dans une loi agricole qui interdit d'utiliser tout ce qui n'est pas autorisé. Bon, ben voilà, la messe est dite, hein. Et il y a un député, parce qu'à l'époque, donc ça a été fait au mois de janvier, après, c'est la suite. Et donc il y a un député qui a proposé d'appeler tout ça les préparations naturelles peu préoccupantes. Donc, une PNPP, c'est quoi ? C'est composé exclusivement soit de substances de base. Alors, il y a 3 catégories, il y a les pesticides de synthèse, il y a les substances de base et il y a les biostimulants. Bon, les pesticides de synthèse, vous savez tout ce que c'est. Les substances de base, ce sont des produits naturels, j'en parlerai pas beaucoup, mais qui ont un effet seed. C'est-à-dire, il faut déposer un dossier qui coûte entre 35 et 50 000 euros là maintenant. C'est une procédure dite allégée. Il y a une organisation qui fait ça, c'est elle qui en a fait le plus, ça s'appelle l'ITAB, l'Institut Technique de l'Agriculture Biologique. Et en fait, là maintenant, on doit être arrivé à 21 ou 22 substances de base. Et pour connaître le sujet, c'est très compliqué d'obtenir parce qu'en fait, c'est une substance. Alors, je vais prendre l'exemple, c'est du sucre pour traiter la pyrale du maïs. Donc oui, il faut faire un dossier de 30, d'un certain montant pour mettre 2 morceaux de sucre à l'hectare. Oui, ça occupe, hein. Bon, c'est pareil, vous avez le lait, le petit lait, la bière. Bon, vous avez la prêle, l'ortie, évidemment, les classiques. Et donc, mais c'est juste pour une cible, c'est-à-dire pour un objet. Le sucre, c'est pour la pyrale. La bière, je pense que c'est pour les limaces. J'ai pas revu, mais le problème, ça fait on est en 2023, ça fait 12 ou 14 ans qu'on s'occupe de ça, qu'il y a une personne qui s'occupe de ça à temps plein, et elle a réussi à en faire passer 10 ou... si j'ai dit 21, elle a réussi à en faire passer 17 ou 18, quoi. Ça n'avance pas. Or, l'usage des plantes en santé des plantes, c'est entre 800 et 1000 produits. Si on veut un produit pour un usage, il faudrait faire 1000 dossiers. Donc c'est impossible. Donc ça, c'est les substances de base. Après, vous avez les substances naturelles à usage biostimulant. Dans les substances de base, vous pouvez faire fonction seed, hein, c'est-à-dire seed, c'est tuer. Donc vous pouvez faire des fongicides, des pesticides et des herbicides, hein, ça se fait, naturellement évidemment. Hein. Et autrement, donc, ça ne peut être que des effets stimulants. Il n'y a pas d'effet seed autorisé. Sauf que le problème auquel on est confronté, c'est que la limite entre la fonction biostimulant et la fonction SID, nous, on ne sait pas où elle se situe. C'est essentiellement des questions de vocabulaire. Si vous mettez... Alors, je vais prendre quoi ? Si vous mettez du jus de consoude pour un arbre, un tronc d'arbre qui a été abîmé, il ne faut surtout pas dire que vous faites de la cicatrisation. Parce que si vous faites de la cicatrisation, vous utilisez un terme médical, donc vous soignez, donc ça doit rentrer dans la classification SID. Oui, monsieur devant, il fait la grimace, mais il a raison. Alors, c'est que ça, en fait. Donc, les PNPP sont aussi obtenus par un procédé accessible à tout utilisateur final. C'est-à-dire que tout paysan peut faire, tout jardinier peut faire ses propres préparations lui-même. Il n'y a pas besoin d'outillage spécial, de raffinerie, etc. quoi. Et surtout, les PNPP appartiennent au domaine public. C'est-à-dire que ce n'est pas privatisable. Il y a d'autres catégories qui utilisent en grande partie les plantes aussi, qui sont en train d'essayer de privatiser tout ça. On change de nom, quoi. Et ça s'appelle des biocontrôles. Quand vous avez un produit de biocontrôle, c'est un produit qui a été avec une autorisation de mise sur le marché. Voilà. Donc ça, c'est de la privatisation. Nous, on se bat pour des choses qui relèvent du domaine public. Les procédés autorisés. Ça date de... Ça a été modifié le 14 juin 2021. C'est un produit qui est obtenu par un ou plusieurs procédés accessibles à tout utilisateur final. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une absence de traitement des matières premières. Vous utilisez de la matière brute ou un traitement reposant exclusivement sur des moyens naturels, mécaniques ou gravitationnels. Par dissolution dans l'eau, dans l'alcool, par flottation, par extraction par l'eau ou par alcool, la distillation à la vapeur ou le chauffage uniquement pour éliminer l'eau. Donc ça regroupe tout ce qui est les purins, les macérations alcooliques, les huiles essentielles. Voilà, et tout ce qu'on trouve sur les hydrolats, évidemment aussi, hein, parce que les hydrolats commencent à être utilisés maintenant. Et sont notamment, donc tout ce qui est autorisé, c'est la fermentation, la macération, la décoction, l'infusion et le pressage. La différence entre la macération et la décoction, c'est que la macération, c'est à l'eau froide. Et la décoction, c'est comme l'infusion, vous chauffez. Ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Tout ce qui est substance plus procédé de préparation, c'est des PNPP. Donc vous avez les substances de base. Donc les substances de base, c'est l'autorisation européenne. C'est ce dont je viens de vous parler. Et il y en a pour... Aujourd'hui, je crois que c'est 22 dossiers hein, en France. Enfin non, en Europe. Après, il y a les SNUB. Les SNUB, c'est donc les substances naturelles à usage de biostimulants. Et nous, la Confédération Paysanne, on est, avec l'ASPRO PNPP, on est là-dedans. C'est-à-dire qu'avec une plante, on doit pouvoir faire, je ne vais pas dire ce qu'on veut, mais ce qu'on peut déjà pour commencer. Et comme la frange, elle est tellement infime qu'on ne sait même pas des fois, quand on passe du SID ou on passe au biostimulant, etc., il n'y a personne qui est capable de nous le qualifier, de nous le quantifier. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on est dans les SNUB, mais on est dans les SNUB pour élargir le combat à ce qu'on puisse faire avec du SID, quoi, qu'on puisse tout faire avec. Quoi. Sur les SNUB, il y a 148 parties de plantes ou plantes médicinales hors monopole, puisqu'il y a quelques plantes qui relèvent du monopole des pharmaciens. Enfin, la pharmacie, là-dessus, nous, on n'a rien à dire parce que c'est au niveau humain que ça se joue. Donc, et là, bon. Mais il n'y a que 148 plantes parce qu'en fait, c'est un jour Joël Labbé, il s'est fâché. Ça n'avançait pas sur le sujet. Il y a eu la loi Joël Labbé qui est passée en 2014, je crois, et ça n'avançait pas. Il s'est fâché un jour au ministère et puis du coup, on lui a sorti une liste de plantes. 148. Pourquoi ? Comment ? On n'a jamais su. On ne sait toujours pas. Il y a des drôles d'aberrations. Toutes les parties de plantes sont concernées, qui sont consommées dans l'alimentation animale, sont aujourd'hui, dans l'alimentation humaine et animale, aujourd'hui sont sous un cahier des charges. Ça, c'est une grosse victoire qu'on a obtenue. Le cahier des charges a été publié il y a 2 ans maintenant. On a mis 3 ans à l'élaborer. Enfin non, on a mis 3 ans à le discuter. avec le ministère de l'Agriculture, la Direction Générale de l'Alimentation. Et ça a été compliqué parce qu'en fait, c'est pas que les fonctionnaires du ministère ne soient pas d'accord avec nous, c'est que ils sont obligés d'obéir à leurs ordres. Et donc, on a discuté, on l'a discuté pendant 3 ans. Et y a toujours des points de désaccord parce qu'il y a. Voilà. Ils ont fait des fois des copier-coller avec d'autres documents et c'est un peu embêtant. Moi, je vais parler du cahier des charges pour commencer. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, on a. C'est des mesures qui ont été adaptées pour la fabrication d'une PNPP. On a beaucoup discuté, on était entre débats d'experts. Donc il faut élaborer une fiche par préparation, on va le présenter tout à l'heure. Mais en fait, c'est plus un guide de bonnes pratiques pour bien réaliser sa préparation. On n'a pas de consignes sur la définition précise d'une préparation. On aurait pu avoir des définitions, un purin d'ortie, c'est ça. Non, on n'en a pas. Ce qu'il faut, c'est plus un guide de bonne pratique. Donc, élaborer la fiche selon le. Il y a deux modèles, puisqu'il y a un modèle pour les producteurs ou les agriculteurs qui font leur propre préparation, et il y a un modèle pour les fabricants de PNPP qui vendent. Parce qu'on a deux catégories, on a ceux qui les font et ceux qui les vendent. Et on a aussi deux catégories au niveau des producteurs, on a ceux qui les font eux-mêmes et ceux qui les achètent. Parce que tout le monde n'a pas envie, parce que voilà. Et donc, la une, c'est pour celle qui est sur la ferme, mais le modèle 2, c'est donc pour ceux qui sont destinés à la commercialisation. Il faut tenir à disposition les informations nécessaires à l'identification de la conformité des plantes et de la préparation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de plantes OGM, par exemple. Ça revient tout à l'heure. Il y a un certain nombre de BABA qu'on a obtenu dans ce cahier des charges, et donc il faut les respecter. Et c'est donc normal que ça, les informations nécessaires sur la provenance des plantes. Si vous allez cueillir vos orties dans un coin, votre prêle dans un autre coin, il faut dire, à peu près où c'est. Quoi. On vous demande pas d'aller précisément dire que toute la prêle, je l'ai ramassée là, au bord de tel ruisseau, parce que voilà, des fois il y a quelques concurrences sur un certain nombre de plantes. Il faut donc mettre en place aussi un stockage des matières premières, des produits finis, pour éviter toute détérioration et contamination. C'est ça, c'est les guides de bonne pratique, on est à fond dedans. Et mettre en place les conditions de fabrication maîtrisées, récipients propres, étanchéité des contenants, etc. Que des choses avec lesquelles nous, on est d'accord. Là où c'est plus compliqué, c'est définir une date de péremption ou d'utilisation optimale. Là, on a laissé passer, parce que il y a d'autres points qui sont plus contraignants derrière. Pour un produit qui doit être commercialisé, le fabricant définit un délai avant récolte, permettant d'assurer la qualité sanitaire de la culture qui est traitée. Là-dessus, on a eu de grosses discussions et on n'a pas pu aboutir. Donc là, vous avez un exemple de type de fiche qu'il faut avoir chez soi. Ça relate tout ce que je viens de dire. Ceci, c'est la même chose, mais pour ceux qui mettent sur le marché. Ce cahier des charges, il y a des restrictions pour l'utilisation des PNPP. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des désaccords. Il y a un premier désaccord, c'est sur les huiles essentielles. On nous a, et c'est là qu'ils ont reproduit les schémas de zone de non-traitement en conventionnel. Donc, une application à plus de 5 mètres d'un point d'eau, pas d'application en présence d'insectes pollinisateurs et auxiliaires. Alors là, c'est un peu embêtant. Pour les gens qui les utilisent. Pas d'utilisation de produits fermentés par des personnes immunodéprimées ou suivant un traitement immunodépresseur. Alors là, on n'a vraiment pas compris. Et puis, ils sont embêtés avec ça, l'administration. Nos interlocuteurs, l'administration, ils sont embêtés. Mais bon, c'est comme ce sont des produits qu'il faut faire attention quand même quand on les utilise. Si vous utilisez du vinaigre de cidre, ça pique un peu quand même, Mais voilà, là, on n'a pas compris, mais ils n'ont pas voulu céder. Et les produits issus de procédés non thermiques ne sont pas utilisés dans un minimum de 3 jours précédant la récolte. Donc, procédés non thermiques, c'est non chauffage, et c'est tout ce qui est notamment fermentation, purin. Et ils ont peur de la bactério. C'est ça qui les inquiète le plus, la bactériose. Or, on est dans un milieu vivant Eh bien, la bactériose fait partie de la chose pour réduire les problèmes. Alors, il y a une chose que je n'ai pas précisée pour commencer, parce que c'est vrai que nous, on baigne beaucoup dedans, c'est que pour utiliser tout ça, il faut avoir des bons principes d'agronomie d'abord. C'est l'essentiel, si... c'est l'essentiel. Mais, oui, c'est l'essentiel. Alors, on a quelques gros désaccords. Hein. On a un gros désaccord, mais là, c'est une affaire de spécialiste, c'est sur les huiles essentielles. C'est l'utilisation et la commercialisation d'huiles essentielles est interdite en tant que PNPP dès lors qu'elle a déjà une autorisation de mise sur le marché en tant que pesticide. Eh bien oui, concurrence déloyale. Bon, il y a 9 huiles essentielles. Alors, il y avait 9 huiles essentielles qui avaient une autorisation de mise en marché. De mémoire, il n'en reste plus que 3. Donc c'est... Ça fait plus beaucoup, mais s'il y a des industriels qui se mettent à déposer des autorisations de mise en marché, mises sur le marché, pour des huiles essentielles, là on peut se retrouver vite coincé. Et après il y a le compendium de l'EFSA. C'est une liste de plantes déposées auprès de Alors l'EFSA c'est en anglais, bon c'est l'équivalent de l'ANSES hein, au niveau européen. Et on a une plante là-dedans qui est nommée, c'est la consoude. Parce que dans la consoude, il y a un ester d'un des acides, d'un des composants de la consoude qui est potentiellement cancérigène quand il est pris tout seul. Donc quand il est pris, on a un autre exemple en santé animale où on a exactement le même problème avec le basilic. Et en fait, quand on est en plante entière ou quand on est en dérivé de plante entière, type huile essentielle, etc., ça ne pose pas de problème. On a suffisamment d'exemples là-dessus. Ça fait depuis 2006 qu'on est en train de se battre. 10-15 ans, c'est gentil parce que, en fait, la loi qui a interdit tout ce qui n'est pas autorisé à date de janvier 2006, et dès juin 2006, ils ont débarqué chez un paysagiste qui travaille toujours d'ailleurs avec les PNPP, les huiles essentielles, etc., et qui est connu, qui s'appelle Éric Petiot. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu en parler, il est dans le Jura. Voilà. Et il a fait de la tôle. Hein. Ah bah oui, fraude, usage de produits interdits, etc. Il a fait de la fraude. Et il y a eu ce qu'on appelle la guerre du purin, la guerre de l'ortie, et il y a eu un tel ramdam dans les campagnes que finalement, ils se sont dit peut-être qu'ils étaient allés trop loin. Et il y a eu une première réunion de discussion, une grand-messe, c'était à l'automne 2006, moi j'y étais, et c'est vrai que tous les alternatifs étaient nombreux, l'industrie chimique, l'UIPP de l'époque, Phytéis aujourd'hui, bah, ils n'étaient que deux quoi, la FNSEA ils étaient deux, nous on était nombreux, très nombreux, et donc depuis on travaille quoi, c'est du plaidoyer, des amendements. On a quand même travaillé avec un sénateur, donc le Joël Labbé, hein, qui a été très très efficace en la matière, puisqu'il a quand même obtenu des lois, enfin la loi Labbé. La loi Labbé, c'est la non-utilisation des pesticides de synthèse par les communes, tout ce qui est endroit public. Et puis, pour en avoir discuté avec lui il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 4 ans, il nous disait, dans la loi, je n'avais pas mis les cimetières et tous les terrains de sport parce que ça ne serait pas passé. Bon, ça, c'est en discutant avec ses collègues, avec plein de monde, et puis il dit, de toute façon, on n'est pas pressé, ça viendra. Et là, il n'y a pas si longtemps que ça, il nous disait, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est venu, beaucoup plus vite qu'il ne le pensait. Donc, tout évolue rapidement. Aujourd'hui, un cimetière qui n'est pas désherbé chimiquement, ça ne pose pas de problème. Des terrains de sport qui sont, quand on discute avec les travailleurs, avec les... Il y a pas mal de paysagistes qui ont commencé à travailler avec tout ce qui est PNPP. Et quand ils utilisent les PNPP, ils vous disent sur les terrains de sport, ils vous disent ben les terrains de sport, ils sont plus souples. Tous les terrains de foot, les terrains de rugby sont plus souples. Les joueurs se font moins mal. Ça résiste mieux à la sécheresse. Enfin, tout ce qu'on a l'habitude d'entendre, quoi. Et donc, c'est en train de venir aussi. Donc, tout ça, c'est fait moyennant. Donc, négociation avec l'administration. De l'argent de l'administration. Parce qu'on est, dans un des programmes de recherche où on est subventionné par l'OFB, donc l'Observatoire l'OFB, c'est l'Observatoire français de la biodiversité. C'est eux qui s'occupent des alternatives aux pesticides. On va aussi dans les réunions à la DGL sur les pesticides, sur le biocontrôle. Moi, la dernière où j'ai été, c'était au mois de décembre. Et là, vous entendez les très hauts fonctionnaires dire « il faut sortir des pesticides rapidement ». Oui, il faut sortir des pesticides rapidement. Là, vous dites, vous vous pincez un peu pour savoir si vous n'avez pas rêvé, mais non. Et il y a urgence. On est d'accord sur l'urgence. Le reste, c'est un problème d'habillage, de décision politique, etc. Donc, on est en discussion avec eux. Il faut qu'on retourne les voir. Mais la situation actuelle laisse encore des paysans dans l'illégalité. Parce que ils veulent sortir des pesticides, donc, mais il faut que ce soit autorisé. Il faut que ce soit autorisé. Il faut que... si vous mettez sur un bidon de PNPP, à quoi ça peut servir? C'est-à-dire si vous faites une allégation thérapeutique, ce pourquoi... si vous... deux morceaux de sucre à l'hectare, ça s'occupe de la pyrale, c'est une allégation thérapeutique. Donc si vous mettez ça sur le bidon, c'est un bidon de produit qui n'est pas de pesticides de synthèse ou de substances de base ou de biocontrôle, vous n'avez pas le droit de le mettre. Et ça, c'est une décision, enfin, c'est une décision européenne. On ne sait pas si elle est européenne ou si c'est poussé par la France. Hein. Parce que j'ai eu des discussions avec eux, avec à Paris, et puis bon, ils savent, enfin, on ne sait pas trop qui est derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quand même des organisations qui sont là pour défendre les paysans. Il y a deux organisations, il y a la Confédération Paysanne et il y a ASPRO PNPP. Donc ça, c'est ce qui s'est passé les années, il y a quelques années. Aujourd'hui, de ce qu'on sait ou de ce qu'ils nous ont dit, c'est pas écrit. Il n'y a pas de poursuite contre des paysans. Ça, c'est acté normalement. Mais bon, là, s'il y a un pouvoir politique qui décide, ils peuvent. Par contre, pour l'instant, c'est bloqué. Le travail sur la légalisation de la santé par les plantes, donc la santé des plantes par les plantes, mais aussi la santé animale par les plantes et la santé des humains par les plantes, c'est bloqué. C'est toute la santé des plantes est bloquée. La légalisation des pratiques. Parce que nous, on est dans la légalisation des pratiques. Il y a plein de choses qui se font sur le terrain. Ça peut changer d'un paysan à l'autre. Et puis, ce qui va marcher chez moi ne va pas forcément marcher chez Romain. Pourquoi? On n'en sait rien. Donc, c'est plein de petites... plein de détails. Et ça, ils n'aiment pas le détail. Mais il faut savoir, donc, que si ça marche pas... Ça peut ne pas marcher chez moi, un produit ne peut pas marcher, peut ne pas marcher chez moi. Sous la formule que j'ai, il faut chercher. C'est un travail permanent que les paysans ont à faire de recherche participative. Et ça, ils ont un peu de mal avec. Donc, pour l'instant, la légalisation bloque beaucoup, mais donc ils donnent des sous, ça s'appelle... Donc ça, c'est deux programmes de recherche XP qui ont été faits par la Confédération Paysanne, ASPRO PNPP pour le premier, et le deuxième, on a la FNAB, on a... Qui on a dedans? J'ai plus les détails. Sachant qu'ASPRO PNPP regroupe pas mal d'organisations comme les Amis de la Terre, tout ça, on est assez nombreux. Il y a les biodynamistes qui sont dedans aussi maintenant. Donc le premier projet, c'était 2018-2020. Ce sont essentiellement des rencontres d'échange, donc échange entre producteurs. Ça a bien fonctionné. Il y avait 200 paysans, il y a eu 200 paysans et paysannes dans les rencontres qu'il y a eu. Moi, j'en ai fait une et on était 80. Donc, c'était bien. Et c'était au Pays Basque. Alors, c'était assez subtil parce que au Pays Basque, en fait, on ne sait pas dans quel pays on est. Et puis, il y avait des Espagnols qui étaient, des Basques espagnols qui étaient là. On a appris des choses. On a appris, par exemple, qu'il y a des Basques qui font des préparations naturelles peu préoccupantes à base de bière. C'est l'imagination au pouvoir. Hein. Et apparemment, ils gazaient. On a fait des outils de communication. On a 6 vidéos. On a des fiches pratiques, on a un podcast, on a fait une enquête de terrain. Le stagiaire, il a travaillé 6 mois. On a fait un travail bibliographique pour recenser les pratiques aussi. Et on a fait un colloque de 2 jours à Périgueux en novembre 2019. Il y avait 250 personnes. C'était bien. On était contents. J'ai des vidéos à présenter. Hein. C'est pour ça que j'avais besoin du partage de réseau.
Vous écoutez la conférence d'André Ledu sur les préparations naturelles peu préoccupantes, alternatives aux pesticides. Une conférence enregistrée le 29 mai 2023 lors de la foire Biocibelle à Groyer.
Le second projet, il se termine là maintenant, donc 2021-2023. On a eu 160 000 euros. On a demandé 160 000, on a eu 160 000. Moi, quand j'ai vu ce résultat, moi, je suis dans le comité de pilotage, j'ai dit on aurait dû demander 200, on aurait eu 200. Donc ça montre bien qu'il y a, en fonction de à qui on s'adresse, il y a des sous. Donc dans ce programme-là, aujourd'hui, on a élargi, il y avait le réseau Tram. Tram, c'est un réseau d'animation agricole qui fonctionne plutôt bien. Il y a la FNAP, c'est la Fédération Nationale des Agriculteurs Bio. Il y a le GRAP d'Avignon, c'est un centre de recherche spécialisé en bio depuis 35 ans au moins, sinon 40 ans. AVSF, c'est Agronome Vétérinaire Sans Frontières. Donc ça nous permet d'avoir ce qui se passe un petit peu à l'étranger. Et notamment en France, on a les DOM. Et eux, la capacité de travailler avec les plantes, c'est exponentiel là-bas par rapport à chez nous. Ils ont des plantes, quand on discute avec eux, on est petits à côté. Donc on a fait 15 programmes, 15 réunions, 15 rencontres d'échanges sur le territoire. On a un recueil d'expériences et de données en ligne. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Et on a commencé à défricher l'offre de formation et on va sans doute établir un annuaire des formateurs et formatrices sur le sujet. Parce que c'est bien de faire de la pub pour les PNPP, c'est bien de dire que ça existe, mais il faut former. Parce que nous, notre maître mot, c'est aussi la formation. Et on a organisé notre première réunion de formation. Non, notre première réunion de formateurs et d'intervenants sur les PNPP, c'était le 11 mai dernier. On n'était pas trop fiers en l'organisant, parce qu'on ne savait pas combien de personnes on aurait eu. On était 30. On ne savait pas trop ce que ça allait donner. On l'a fait en visio. Et très vite, il y en a qui ont dit, mais on aurait dû la faire en présentiel. Bon, vous ne vous inquiétez pas, ça va venir. Hein. Donc là, on est parti pour faire travailler les formateurs ensemble. Non pas sur ce qu'ils proposent comme technique, etc., mais ce qu'il peut y avoir comme besoin en matière de formation, et aussi d'être quand on est face à l'administration, c'est mieux de ne pas être isolé. Moi, je l'avais constaté quand on a été embêté en santé animale par les plantes, pour faire de la formation donc sur la santé animale par les plantes. Et comme on était déjà réunis, les formateurs, on les avait quasiment tous dans les groupes de travail dans lesquels on était, ça avait été beaucoup plus facile de discuter collectivement avec l'administration. Et donc en santé des plantes, en PNPP aujourd'hui, jusqu'à présent, tout le monde est isolé. Et apparemment, il y a un besoin de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Donc là, on a tout l'avenir devant nous. Donc on va proposer à tous les gens qui étaient présents et tous ceux qui voudront une réunion physique à l'automne sur une journée à Paris. Donc voilà, avec l'objectif d'établir un annuaire des formateurs et des formatrices sur le sujet, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient moins d'une dizaine. Aujourd'hui, ils sont une trentaine et il y a de plus en plus de demandes de formation sur les PNPP. Mais les formateurs, ils sont complets. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas intervenir avant je ne sais combien de temps. Il y en a, c'est 3-4 ans. Donc si on veut se développer, il faut que les formateurs puissent... Il faut un outil de formation. Et donc c'est pour ça qu'on a fait cette réunion-là le 11 mai dernier, ce qui a été un succès. On a organisé un colloque de 2 jours à Lyon. On était à peu près 200 aussi. Ça, c'est le recueil d'expériences en ligne qui n'est pas encore opérationnel. Il sera opérationnel assez vite normalement, parce que ça doit être rendu pour la fin du mois prochain. Donc voilà, moi c'est pas mon truc, mais si vous cherchez à travailler sur si vous avez une maladie ou si vous avez un problème, un parasite, etc., vous pouvez aller dessus. Normalement, il devrait s'appeler PNPP, et puis ça c'est la fin. Ça c'est les autocollants qu'on fait quand on n'est pas content. Voilà, on va essayer de trouver une vidéo. Moi, c'est celle-là que je préfère parce que, en fait, toutes les autres, c'est arboriculteurs, maraîchers, vignerons. Donc, quand on est en conférence comme ça, on va dire « Ouais, mais ça, c'est des particuliers ». Celle-là, c'est un céréalier. Il a 160 hectares. Donc, vous allez voir.
L'exploitation se trouve dans le sud de l'Eure. L'exploitation fait 160 hectares en semi-direct, sous couvert.
Ça va faire 6 ans que j'utilise les macérations. Je préfère les acheter pour une question de traçabilité,
pour être sûr du produit que j'utilise. Donc j'utilise 4 préparations, suivant les cultures, suivant l'époque. Donc sur les céréales, j'utilise ortie, écorce de saule avec de la prêle. Je rajoute du lait par rapport à ces macérations-là. Donc dans le lait, il y a plein d'oligo-éléments. Il y a de la caséine, il y a de la matière grasse. Et on a vu qu'il y avait une efficacité, un complément d'efficacité. Et puis je ramène de la mélasse. Dans la mélasse, il y a du sucre pour assimiler les produits et pour se développer. Après, sur les pois, c'est à base de reine des prés, de l'argile. Et puis je remets encore du lait. Les répulsifs, j'utilise de l'ail avec du savon noir à base d'huile d'olive. Je remets aussi des macérations qui ramènent du soufre, alors ça c'est tout nouveau, et à base d'ail, d'ortie et encore d'autres plantes. Pour les enrobages de semences, c'est une technique que je pratique depuis 10 ans. C'est une macération de blé orge avoine. Je rajoute de la prêle et puis je rajoute aussi du sucre à base de mélasse, quoi.
De récupération de toit. Il n'y a pas d'eau de Javel dedans. Le pH, c'est un pH 6,4 qui est hyper important pour mon mélange avec les macérations. C'est pas toxique, hein, c'est que des produits naturels. Là, je me sens en totale confiance avec les produits que j'utilise.
Donc l'utilisation des macérations, ail, argile plus, plus savon noir m'a permis de supprimer pas mal d'insecticides sur les colzas. Ça me sert à combattre donc les pucerons à l'automne sur céréales, méligètes sur le colza. Là on est en train de faire des essais sur le charançon et puis l'altise. Sur céréales, ça me permet de contrôler les rouilles, l'acepto, l'oïdium. Sur les blés de maïs, pour la FUSA, il y a 5 ans, je faisais 50%. Et là, je suis arrivé quasiment à 100%, suivant les années, à 100% en macération et en supprimant le chimique, quoi.
J'aimerais bien supprimer la partie soufre minérale qu'on peut amener pour voir au niveau économie ce que ça peut donner et tout ça.
Tous les ans, je fais des bandes témoins pour contrôler si mon système est viable. On se retrouve avec des écarts infimes entre macération et produits chimiques. Sauf que le coût économique n'est pas le même et le résultat sur la vie du sol n'est pas le même non plus.
Travailler avec des macérations reste dans un coût très très raisonnable. Les macérations, c'est un pourcentage par rapport à votre volume d'eau.
Du fait que moi, je suis en ultra bas volume, je suis à 19 litres de bouillie hectare, donc à chaque passage, moi, ça représente 1,5 litre, donc 1,5 litre à 1,80 euros.
On ne prend jamais le temps d'expliquer ce que l'on fait aux gens. Et tout le monde pense qu'on ne fait que des pesticides. Et en fin de compte, la preuve que non, on sait travailler autrement.
Pour moi, l'utilisation des macérations, c'est très important. Dans le respect d'un sol vivant, ça fait plusieurs années que je suis passé en agriculture de conservation. Donc pour moi, c'est une continuité. On nous a retiré la consoude parmi nos préparations de macération, quoi. Et c'est inquiétant parce que ça peut être une mainmise des boîtes phytosanitaires et ça va être le même problème qu'avec nos semences fermières, quoi. Il faut préparer nos jeunes qui vont reprendre nos exploitations à déjà savoir travailler avec ça et que nos sols soient déjà prêts à travailler avec ça. Mais c'est un tout en fin de compte. Voilà. Quand on passe aux macérations, il faut être prêt quand même. C'est un grand pas vers l'avenir.
Donc ça, c'est des exemples qu'on a. On a de plus en plus de céréaliers qui s'y mettent. Hein. Et ça leur fait pas peur. Hein. 350 hectares, 700 hectares, ça leur fait vraiment pas peur. On a même... avec les gens avec qui on a travaillé, il y en a même céréalier, quand c'est un essai, l'essai il fait 100 hectares. Hein. Donc non, mais faut quand même rappeler que dans le discours officiel, on nous dit qu'il n'y a pas d'alternative aux pesticides. Ils oublient juste un terme qui s'appelle alternative légale. Parce que s'il y a les alternatives, on les a. Vous avez vu, là, c'est C'est pour ça que j'aime bien celle-là, parce que c'est chez un céréalier. Et à chaque fois, ça fait tilt. Hein. Quand on passe celle-là, les gens, ils disent « Ah, les céréaliers font ça !» Ben oui. Bon, est-ce que vous avez des questions ?
Oui, donc si ce n'est pas légal, comment il peut justifier de sa production ?
À un moment donné, on vous dit partout que les pesticides, c'est dangereux. Pesticides de synthèse. Bon, on sait qu'il y a des choses qui se passent. Il faut apprendre à assumer son illégalité. Il faut apprendre à assumer son illégalité. En santé animale, c'est encore plus flagrant, parce qu'aujourd'hui, ce sont des grands groupes qui utilisent... Quand vous achetez un poulet sans antibiotiques et sans anticoccidien de synthèse, il est de fait illégal, parce qu'il a été nourri avec tout le volet antibiotique et anticoccidien a été remplacé par des plantes et des substances à base de plantes. Ils ne le disent pas. Il y a un grand groupe de producteurs de porc qui l'a dit il y a 2 ans, qu'ils n'utilisaient plus d'antibiotiques, et donc ils utilisaient des huiles essentielles pour leur porc haut de gamme l'année dernière, lors de la même présentation qu'ils font annuellement sur le machin. Nous travaillons avec des préparations à base de plantes. C'est la même chose. Mais eux, ils s'assoient ils sont assez puissants pour pouvoir s'asseoir. Mais après, c'est pas évident d'apprendre à assumer de travailler dans l'illégalité. Hein. Moi, je sais, le fils à la maison, il m'a dit il y a pas longtemps, ouais, mais ils sont capables, si la DSV vient chez moi, ils sont capables de me loger parce que j'utilise tous les compléments alimentaires. Là. J'ai dit, ouais, ils peuvent venir, mais ils te feront rien. Parce que s'ils font quelque chose, il y aura sans doute un peu de raffus. Mais non, c'est pas évident d'assumer. Ça, c'est très clair. Ça vient petit à petit. Mais quand vous faites toutes vos cultures comme ça, on a maintenant quelques exemples. Et quand on sait en plus que la force publique veut sortir des pesticides rapidement, à un moment donné, il ne faut pas hésiter, quoi. En Espagne, l'Espagnol qu'on a vu il y a 3 ans maintenant, 3 ans et demi, quand il a fait ses préparations à base de bière, il a dit, il est allé voir le ministère de l'Agriculture, et puis, mais je fais quoi avec ça ? Qu'il leur a posé comme question. On lui a répondu, vous inquiétez pas, on sait où vous habitez. S'il y a un problème, on vous trouvera, rassurez-vous. En France, c'est interdit, parce que c'est pas autorisé. Et il y a un autre problème qui est dangereux, si je suis à Nature et Progrès, donc ça va être facile. Si vous travaillez avec un produit qui n'est pas autorisé, donc vous êtes dans l'illégalité. Ça veut dire que, globalement, l'agriculture biologique est dans l'illégalité. Et oui, quand il y a une charge Nature et Progrès, dans l'illégalité. Faut aller. Nous, on va jusque-là, quoi. Donc vous croyez qu'ils vont attaquer ?
Pourquoi c'est illégal de donner à manger, de traiter des animaux avec des produits naturels si à l'époque on faisait ça à la préhistoire ou au Moyen-Âge et on le fait encore, enfin, pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser la nature pour faire du bien, quoi ?
Parce qu'il y a des gens qui ont décidé ça. Il y a... On a reçu des courriers du directeur de la Direction Générale de l'Alimentation, qui était assez sympathique en la matière. À partir du moment où on travaille sur la santé, manger déjà, c'est s'alimenter, déjà, c'est un acte de santé, on va dire. Et mais des fois, suivant comment on peut interpréter les textes, ça peut être illégal. Mais c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui ont voulu monopoliser la chose. Les histoires d'argent, médicaments, notamment l'industrie des médicaments vétérinaires. Mais en santé des plantes, c'est pareil. Là, on est dans des batailles, on le sait. Mais bien sûr que c'est pas... Enfin, c'est illégal, c'est pas... illégitime, voilà. Et on l'a toujours fait.
Et à partir du moment où il y a des entreprises qui vendent des produits, ils ont tout intérêt à ce qu'ils aient un certain monopole sur l'utilisation. Alors que les préparations naturelles, c'est un marché beaucoup moins lucratif.
C'est un marché moins lucratif et c'est un marché non seulement lucratif, c'est pas que le lucratif, c'est que le coût global, il est nettement inférieur. Moi, je l'ai entendu cette année au Salon de l'Agriculture. Utiliser tel produit, il n'est pas cher. C'est un problème de coût. Je dis oui, pas que. On était en apiculture, donc voilà.
Merci. Je voulais poser la question des subventions. Il y a toujours plus ou moins des subventions dans l'agriculture. Et du coup, quelqu'un qui utilise uniquement des produits naturels, il va être un peu pénalisé, non ?
Pas pour l'instant.
Il y a des aides qu'il n'aura pas ?
Si.
Si.
C'est pas qu'on... c'est ambigu. Non, il est sûr de les avoir, mais il est sûr de l'avoir parce que l'administration n'applique pas. Quand vous avez d'un côté la force publique qui dit dans certaines réunions que, et où il y a, tout le monde y est, hein, on est 40 personnes autour de la table, et où tout le monde dit qu'il faut sortir en urgence des, pesticides, ils ne peuvent pas de l'autre côté aller pénaliser ceux qui pratiquent. Enfin,
c'est relativement récent, ça. Je veux dire que c'est...
On s'est battu pour être visible.
Voilà, ouais.
C'est un des thèmes de la DSS, c'est ce que j'ai dit lors de la réunion qu'on a eue avec les formateurs. Pourquoi on l'a fait, c'est qu'il faut être visible. À partir du moment où on est visible, c'est beaucoup moins dangereux. En santé animale, on est visible depuis... que je raconte pas de conneries. Depuis 2011. Et à partir du moment où on est visible, on fait parler de nous. Les gens, ils viennent vous voir. On apprend... On apprend que les grands groupes ils utilisent des huiles essentielles pour nourrir les poulets machin. Et c'est la vétérinaire d'un des plus grands groupes français qui me le dit. Elle s'est assise à côté de moi à une réunion là il n'y a pas longtemps, c'était en fin d'année chez des amis. Il y avait un collègue qui était en face de moi et puis on est venu à parler des serres, des tomates, de toutes les serres. Et en fait, sur l'exemple de la tomate, en Bretagne, sur Brest, c'est quand même humide, quoi. Il y a un problème principal qui s'appelle le mildiou. Pour le milieu, ils utilisent des huiles essentielles. C'est pas dit. Si vous allez sur les vidéos, je suis allé voir, sur les vidéos du groupe Saveol, il y a une administratrice qui dit oui, on utilise plus de pesticides de synthèse, on utilise des bourdons, et pas que. Voilà, quand on connaît un peu le discours et la communication, le pas que, c'est tout le reste. Tout ce qu'ils ne peuvent pas dire. Parce que vous pouvez rester couper les feuilles de tomates une à une, mais ça ne suffit pas. Voilà, et le collègue qui était en face de moi, il m'a dit oui, ils utilisent des huiles essentielles qui ne sont pas légales. Mais ben, voilà.
C'est plutôt en bonne voie alors.
Ah oui, c'est en bonne voie. Mais il faut élargir. Oui, c'est en bonne voie, on devient visible, il faut se rendre visible.
Bonjour, est-ce qu'il n'y aurait pas du coup un enjeu à ce que ces grands groupes agroalimentaires qui finalement utilisent ces méthodes naturelles finissent par sortir du placard et les revendiquer pour briser un peu cet étau?
C'est compliqué pour eux. Alors c'est plus facile pour nous de dire qu'eux, ils l'utilisent. À partir du moment où on dit, mais attendez, c'était au mois de septembre, moi je suis allé au SPAS parce qu'il y avait une conférence sur le sujet, et moi je suis allé juste pour dire, puisqu'il y avait la sous-directrice de l'ANMV, l'Agence Nationale du Médicament Vétérinaire qui intervenait, moi je suis allé juste pour lui dire, mais en fait, les grands groupes les utilisent, ils sont dans l'illégalité, oui, on sait. C'est la première fois qu'elle disait publiquement, oui, on sait. Ça fait 5 ans qu'on travaille, hein, qu'on se bat là. Qu'on se bat. On est entre gens intelligents quand même, faut le dire. Hein, ils savent très bien ce qu'on pense, ils savent très bien ce qu'on fait. Là aujourd'hui, ils sont en train de nous balader. Entre eux. Donc on réfléchit tranquillement. On n'est pas pressé. Ils sont pas pressés, nous non plus. Mais parler de ça ici, c'est un plus.
Vous avez évoqué tout à l'heure la question des tomates. Moi, je suis un jardinier. Pour moi, les tomates, c'est sacré, etc. Et vous avez parlé à l'instant de l'huile essentielle. Je voulais, moi, cette année, j'avais prévu de revenir à la bouillie bordelaise. Tout con. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, je ne mettais rien du tout. Vous me parlez d'huile essentielle. Est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît?
Alors, moi, d'un point de vue technique, je suis particulièrement nul. Moi, je suis dans les réunions de discussion, etc. Je suis vraiment pas un technicien. Mais bon, la bouillie bordelaise, oui, sur les tomates, oui.
Moi, c'est une macération dans l'huile que je fais, du coup.
Oui.
Et j'ai découvert ça. Moi, j'ai trouvé ça génial parce que je suis pas du genre à passer beaucoup de temps à surveiller mes préparations et mon potager. Et en fait, c'est hyper polyvalent. Et bon, il faut juste faire gaffe, par contre, si on a des insectes auxiliaires, tout ça, parce que ça peut leur faire mal aussi à eux. Mais sur les tomates, il y a moyen que ça soit... Enfin, je ne sais pas à quel degré d'efficacité ça peut remplacer la bouillie bordelaise, mais c'est un truc à essayer, quoi. Alors, bon, on le trouve facilement hein, sur Internet, tout ça. En fait, le principe, c'est on prend une tête d'ail entière, on l'écrase... vulgairement, on la met dans un petit bocal de 500 grammes avec de l'huile, d'olive ou huile de tournesol. Huile d'olive, c'est mieux. Et on laisse macérer 72 heures. On presse bien, on filtre et on rajoute juste une cuillère à café de savon noir liquide pour que ça rende le mélange miscible avec l'eau après. Voilà. Et ça, on peut le garder très longtemps. On le met... à l'abri de la lumière, pas à la chaleur, et ça se garde super longtemps. Et quand on l'utilise, on prend juste la dose qu'on veut, on dilue dans l'eau, voilà. Et les dilutions, après, ça dépend de ce qu'on veut en faire.
Bonjour, vous en avez peut-être parlé de Gérard Ducerf et des plantes bio-indicatrices, pas encore peut-être ?
Non, je n'ai pas parlé de Gérard Ducerf du tout, parce que ce n'est pas dans le...
Non, mais c'était par rapport à ça, parce que lui, il
Oui, après, toutes les plantes ont... un certain nombre de plantes ont... Quand elles sont présentes dans Gérard Ducerf, j'étais en formation, ouais. Un certain nombre de plantes, et quand elles sont là, on sait pourquoi elles sont là.
Voilà, il parlait de la renouée du Japon en pulvérisation aussi sur les mildiux.
Ça, je... Voilà. Techniquement, j'y connais pas grand-chose, okay. Mais il y a pas mal de plantes, on sait pourquoi elles sont là. Oui. Donc, elles sont là pour des raisons agronomiques, et une fois qu'elles ont fini leur travail, elles s'en vont.
C'est ça.
Nous, sur la ferme, quand on s'est installé en 1985, des Rumex, il y en avait partout.
Oui.
Bon, ben, 10 ans plus tard, on pouvait s'amuser à les compter. Maintenant, on ne s'embête plus.
Elles ont fait le travail.
Et, mais bon, nous, on a travaillé avec un agronome qui s'appelait François Pape, qui était très connu, qui était peu connu, même dans les milieux alternatifs, et qui a fait un gros travail là-dessus aussi, oui.
Bah, je pense qu'on va en rester là. Merci beaucoup André, merci beaucoup à vous.
C'était la conférence d'André Ledu sur les préparations naturelles peu préoccupantes alternatives aux pesticides, enregistrée le 29 mai 2023 lors de la foire Biocybelle à Groyer.
Pour en savoir plus sur ces alternatives aux pesticides et valoriser les préparations naturelles peu préoccupantes, PNPP, rendez-vous sur le site de la Confédération Paysanne au www.confédérationpaysanne.com ou sur le site de Nature et Progrès au www.natureetprogrès.com ou bien encore sur le site de l'ASPRO-PNPP au www.lastro-pnpp.com.